Chers auditeurs, bonjour et bonjour à vous, Cécilia Duterre.
Bonjour Caroline.
Merci de nous retrouver, RCF. On va plus compter maintenant.
Merci c'est... à vous.
Vous venez nous parler de votre dernier livre qui vient de sortir. C'est un tout petit enfant qui s'appelle La loi du père. Ouais. Un sujet difficile et j'avoue que je vais saluer le courage que vous avez, dont vous avez fait preuve en mettant ce sujet à l'ordre du jour. Parce que ça raconte, il y a beaucoup de livres qui parlent déjà de relations difficiles quelquefois entre certains parents et leurs enfants. Mais là, on est dans un cas très particulier, donc ce livre est en grande partie autobiographique, ça vous le dites vous-même, avec une relation avec un père qui pèse tellement lourd et qui a de tels problèmes lui-même à régler ou qui n'a jamais réglé avec lui-même, que du coup, ça représente un poids pour sa famille, pour sa femme, pour ses filles, dont vous faites partie, et qui a pesé pendant toute votre enfance et toute votre adolescence.
Et même après. Mais oui, et l'idée du livre, c'est de... J'ai 50 ans, donc l'âge des bilans, si j'ose dire. Et l'idée du livre, c'est de revenir justement sur cet itinéraire. Mon père est mort il y a 4 ans. Et c'est vrai que c'est une relation chaotique ou presque une non-relation sur la fin que j'ai eue avec lui. Et l'idée, c'était de ça... C'est pas du tout une mise en accusation du père, ni une victimisation, mais plutôt revenir en fait sur cet itinéraire, comment une petite fille, une adolescente, une femme, une épouse, une mère que je suis, s'est construite face à cette figure despotique, tyrannique du père et chaotique. Un homme très aléatoire, très, très colérique, qui a effectivement marqué mon enfance. Et puis aussi, j'étais effectivement victime de cet homme, mais aussi témoin de violences intrafamiliales, hein, parce qu'il était dur aussi avec son épouse, avec la famille. Et voilà. Et l'idée, c'était aussi de parler de ce parcours, de cette relation extrêmement difficile. Et à sa mort, curieusement, donc je vous dis, à 4 ans, j'ai eu une peine immense. Et je ne comprenais pas cette peine, en fait. Pourquoi cet effondrement? Et parce que cet homme, finalement, comptait assez peu dans ma vie de femme. J'avais mis beaucoup de barrières entre lui et moi. On se voyait, mais on se parlait peu. Et je pensais qu'il ne comptait plus tant que ça, finalement. Et curieusement, je pleurais, mais je ne pleurais peut-être pas tant sur la perte que sur moi-même, sur cette petite fille que j'avais laissé 50 ans auparavant et qui était toujours blessée, bien que je le niais. Et j'ai décidé de revenir à la source des choses, c'est-à-dire sur cette enfance et aussi, par ce biais-là, aux causes. J'ai essayé de comprendre en profondeur les causes qui ont présidé au comportement de mon père pour peut-être mieux me réconcilier à la fois avec ce passé et avec cet homme que je ne comprenais pas. Que très mal et que j'ai appris à comprendre après sa mort en fait. Et c'est donc un parcours à la fois de résilience et aussi un parcours spirituel de pardon, parce que le pardon est venu tard, après la mort de mon père, mais il est venu et il est venu apaiser et je dirais marquer d'espérance en fait ce parcours personnel qui était très lourd et dont je n'avais effectivement jamais parlé dans mes livres. C'est un livre autobiographique de bout en bout et je pense que c'est le plus personnel et le plus sincère que j'ai écrit, le plus intime aussi sans doute.
Alors c'est une lecture très très intéressante et je pense qu'il y a beaucoup de vos lecteurs à qui ça va rappeler des personnes qu'ils ont connues et donc c'est mon cas. Et alors j'ai trouvé ça très intéressant de voir, vous disiez qu'il n'y avait pas de relation mais en réalité c'est pas tout à fait ça parce que quand vous disiez toute petite fille au contraire, c'est là qu'il y avait une relation. Cet homme était votre dieu, comme tous les pères sont le dieu de leur petite fille. Et il y avait un amour, il débordait d'amour pour vous. Et c'est quand même très intéressant parce que c'est quelque chose que j'ai pu observer pour ma part aussi, de voir que ce genre de personnalités dont on va dire qu'elles sont difficiles, pour le moins, borderline au moins, tant qu'il n'y a pas d'opposition, tant qu'on est en face d'un petit enfant qui ne discute pas, l'amour ne se compte pas, enfin tout déborde. Et les problèmes viennent le jour où ce petit enfant finit par avoir sa petite personnalité, sa vie à soi et sa petite opinion. Et c'est là que la frustration arrive de la part de ces personnes qui n'ont du mal à trouver leurs limites. Et de leurs choses, ils ne peuvent pas voir évoluer l'enfant. Et moi, j'ai vraiment observé, quand j'ai lu votre livre, avec un grand intérêt, parce que j'ai trouvé que vous avez réussi à trouver un ton qui n'était pas de sensiblerie, tout en étant sensible, et qui était très mesuré. Et ça m'a vraiment frappé de voir à quel point cet homme est devenu fou, enfin, a commencé à devenir fou, quand sa chose lui échappe.
Oui, et aussi quand cet enfant commence à raisonner et commence à se rendre compte que le père n'est peut-être pas le socle solide qu'il voudrait avoir, mais cet homme chaotique et surtout incroyablement aléatoire dans son comportement, ce qui crée une inquiétude extrême chez le jeune enfant et chez l'adolescente ensuite qui va s'émanciper. Et le livre est structuré selon les étapes par lesquelles je suis passée. C'est-à-dire effectivement une fascination de petite fille devant cet ogre, mais cet ogre à la fois aimant, vous l'avez dit, mais aussi à la fois qui peut être très brutal. Hein. Je parle des fessées, je parle des crises, elles existent déjà même dans la prime enfance. Mais ensuite, effectivement, après cette période de fascination pour ce démiurge, eh bien, il y a la période de rébellion, et puis la période d'émancipation de la femme, et puis la scission avec ce père, dont il a fallu à un moment donné un peu se séparer, même beaucoup, en tout cas intellectuellement, pour pouvoir construire aussi sa vie de femme, sa vie d'épouse, de mère, et construire sa propre famille, mettre à l'abri cette famille de cette toxicité, de cette relation toxique. Et puis aussi, qu'est-ce qu'on transmet? C'est aussi l'idée livre, qu'est-ce qu'on transmet soi-même à ses propres enfants avec ce passé compliqué?
Alors cette idée de toxicité est très intéressante, on y reviendra bien sûr après une très courte pause, à tout de suite.
Grand Angle, c'est chaque semaine un sujet de société débattu sur RCF. Christophe Hénin, entouré d'experts, d'invités ou de témoins, élargit votre champ de vision sur les grandes questions actuelles et le monde d'aujourd'hui. Grand Angle, une coproduction RCF Bayard Presse, ce mercredi à 23h.
Autour d'un livre sur RCF.
RCF.
Autour d'un livre. Caroline Lédé.
Oui, je reprends mon entretien avec Cécilia Duterre, que je remercie d'être là. Vous nous parlez de la loi du père et donc de ce père dont vous avez fini par comprendre qu'il était toxique pour vous, mais aussi pour le reste de votre famille. Votre sœur aînée arrive à s'émanciper. On peut imaginer qu'elle a connu les mêmes affres que vous, mais vous assistez quand même avec un sentiment d'impuissance terrible au mal qu'il vous fait à vous, mais aussi à votre mère.
Oui, oui, tout à fait. Tant que je suis sous le toit de mes parents, enfant et adolescente, effectivement, et je prends souvent la défense de cette mère que je considère comme opprimée. Après, avec le recul aussi, et j'en parle dans le livre, mes yeux maintenant d'adulte, peut-être que je pense aussi qu'elle aurait dû partir peut-être plus tôt et s'échapper pour peut-être nous mettre aussi, nous, à l'abri, ses enfants. Maintenant, l'histoire, elle est celle-ci, c'est celle que je raconte, et aussi, l'idée du livre, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce que on ressasse éternellement cette blessure, ou est-ce qu'on peut aller vers la lumière? Et pour aller vers la lumière, il faut aussi accorder une forme de réconciliation et de pardon. Moi, ça a été mon parcours de foi aussi. Hein. Je parle beaucoup de mon parcours de foi dans le livre. On est sur une antenne où je peux en parler facilement. Et c'est vrai que c'est vraiment mon chemin. C'est vraiment un chemin qui va du Père terrestre, qui n'est pas solide et qui est si chaotique, vers le Père céleste avec un grand P, que j'ai cherché très tôt dans mon enfance, alors que je n'étais pas dans une famille qui m'y prédestinait. J'avais été baptisée, mais au fond on ne parlait pas de Dieu à la maison. Mais heureusement, il y a eu le catéchisme que j'ai demandé à suivre, la greffe a prise, et puis ensuite, effectivement, au début cette foi était un peu primaire. Je demandais au Seigneur, eh bien, de m'aider d'abord dans cette difficile relation, et puis progressivement, effectivement, cette quête s'est affinée grâce aux lectures, grâce aux discussions, grâce aussi à un groupe de prières que j'ai rejoint sur le tard, vers 20 ans. Puis j'ai fait ma communion très tardivement aussi, à 20 ans. Donc c'était vraiment un choix de conversion très fort. Et puis, vous le savez bien, puisque je viens sur votre antenne, maintenant j'écris beaucoup en spiritualité. J'essaie de porter aussi cette quête spirituelle dans mes livres. Mais je dois dire que ma foi en Christ m'a vraiment aidée sur le tard, tardivement, à donner ce pardon.
Alors justement, ce pardon, ça s'est quand même, heureusement, ça s'est pas fait tout seul, mais vous décrivez quand même les affres. Avant d'arriver à pardonner tout le mal qu'on vous a fait, vous avez vécu quand même des mois, des nuits de cauchemars intenses.
Après la mort de mon père, il y a eu pratiquement plus d'un an où effectivement, tout est remonté. D'abord la peine. Alors j'ai compris que cette peine, c'était surtout une peine sur moi-même, bien sûr, mais aussi la peine de cette rencontre manquée. Et par les rêves, et j'en parle beaucoup, par les cauchemars, il y a une bataille incroyable qui se forge dans mon inconscient où je règle mes comptes avec ce père et où il règle les siens avec moi. Donc toutes les nuits, c'est des insomnies, ce sont des cauchemars terribles. Et puis, tout d'un coup, je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais faire une dépression? Et là, je reprends la marche, méditative à pied. Marcher, c'est avancer, c'est respirer, c'est retrouver un espace aussi au cœur de soi. C'est aussi le silence dans la marche. Et dans cet espace-là, je reprends pied, c'est le cas de le dire, et je reprends un peu de souffle, et les choses s'apaisent tout doucement, et des cauchemars terribles, on glisse vers des rêves beaucoup plus doux, symboliquement représentent une forme de réconciliation, qui sont pour moi plus que des rêves, des songes, parce qu'il y a même un ou deux rêves songes prophétiques que je fais, et j'en parle dans le livre, voilà, j'ai ce sentiment que mon père revient et me parler, et s'adoucir lui aussi. Et dans cette relation finalement très douce qu'on retisse dans l'au-delà, eh bien oui, il y a comme quelque chose du pardon qui arrive et qui me, tout d'un coup, je me rends compte que ça me libère infiniment. Et je dois dire que là, je parle maintenant de... C'est pour ça que j'ai pu écrire le livre d'ailleurs, parce que c'est vraiment le fruit de cette expérience que j'ai voulu relater pas à pas. Et je me sens maintenant effectivement légère et apaisée par rapport à cette histoire.
C'est une formidable expérience que vous racontez, je trouve très bien, et sur le ton qu'il fallait, ce qui n'était pas facile à trouver à mon avis.
Merci.
Donc je rappelle le titre de votre livre, Cécilia Duterre, c'est La loi du père, et c'est édité aux éditions du Cerf. Merci beaucoup.
Merci à vous, Caroline.